Les mystères du Palais Royal, sixième partie. Chapitre 4. Sabran, Davernes, Gassé, la Duchesse de Gèvres, les filles d'opéra. Nous avons tout dit, ou à peu près tout, sur Madame de Parabère. Et puisque nous nous sommes constitués de notre autorité privée, l'historiographe et le peintre ordinaire, des beautés célèbres réunies au Palais Royal pour le petit souper du régent, reprenons notre crayon pour les portraits et notre plume pour les anecdotes. Madame de Sabran fut pendant quelque temps la rivale de la Parabère, dans les bonnes grâces du régent. Cette rivalité était d'ailleurs acceptée le mieux du monde par les deux femmes qui se partageaient à l'amiable le duc d'Orléans et souvent se réunissaient à lui dans de communes orgies. Madame de Sabran disait être originaire de Provence, mais les chroniqueurs contemporains affirment qu'en réalité, elle venait en ligne directe de chez la Fillon, où son mari l'avait prise pour l'épouser. Monsieur de Sabran était un homme amené par le nez et par les oreilles, qu'il avait d'une longueur arcadique. Du reste, fort bon gentilhomme. Grande et brune, avec des yeux verts et de grands cheveux annelés, qui semblaient prêtes à dérouler leurs ondes sur des épaules sans voile, avec un sourire de ménade, Madame de Sabran était une sorte de bonne fille, sans autre mérite que son étourdissante beauté, sans autre talent que celui de séduire à la première vue, sinon les cœurs, du moins les sens. Son air effronté, et même un peu plus, ses regards hardis et libertins, montèrent singulièrement à la tête de son Altesse royale. Elle parlait beaucoup, très vite, et semait ses paroles avec un joli petit accent gascon qui rappelait tout à fait l'accent des grisettes de Bordeaux. Le choix des expressions rendait la ressemblance plus complète et plus frappante encore. On était tout étonné d'entendre de si gros mots sortir d'une si petite bouche. Madame de Sabran jurait comme un beau diable, et ceci même ne serait rien. Certains jolis jurons ne m'essaye pas trop à une belle créature vive comme la poudre et le vif argent. Mais elle avait le langage des prêtresses de la Vénus populaire, et certaines expressions ultra-techniques qu'elle employait avec un aplomb de garde française faisaient pâmer d'aise le régent qui ne pouvait contenir les joyeux transports de son hilarité. Souvent, son Altesse royale prenait plaisir à lui répondre sur le même ton, et les dialogues de l'amant et de la maîtresse feraient rougir le papier. Dubois, qui n'était pas prude, rougit un jour devant le régent, qui s'écria aussitôt. « Allons, Dubois, mon cher ami, te voilà devenu presque un honnête homme, puisque Diogène a dit que la rougeur était la couleur de la vertu. Témoin, ton chapeau de cardinal !» Le caractère de Madame de Sabran offrait plus d'un point d'analogie avec celui des pensionnaires de la Fillon, dont le bruit public l'accusait d'avoir jadis fait partie. Avide, intéressée et même, disait-on, fort avare, elle ne négligeait rien pour obtenir du prince des présents d'argent et de bijoux, et aussi des charges, des honneurs, des pensions pour monsieur son mari, qui les méritait bien. Madame Davernes avait été la maîtresse du régent. Elle ne l'était plus que de temps à autre, par occasion, mais elle venait toujours au souper du Palais Royal. C'était une maîtresse-femme que cette Madame Davernes. Prude et dévote, autant que perverse et dévergondée, elle avait dit au duc d'Orléans, en le recevant dans sa chambre à coucher pour la première fois, « Monseigneur, laissez-moi d'abord faire ma prière du soir. » Madame Davernes avait ce que l'on appelle généralement un port de reine. Elle était plus imposante que belle, bien faite plutôt que gracieuse. Son visage était irrégulier, ses joues pâles, ses yeux fauves et d'une couleur indécise, et à cela près d'une poitrine fort belle et qu'elle mettait particulièrement en évidence. Aucun de ses charmes n'aurait fait revenir un mort. Habile, accapareuse et quémandeuse intrépide, elle appauvrit le trésor public de plus de 3 millions. Son mari s'estimait, à bon droit, sinon fort honoré, du moins fort enrichi par le déshonneur de sa femme. Elle détestait toutes les maîtresses du régent, passées, présentes et à venir. C'était sans cesse entre elles, Madame de Parabère et Madame de Sabran, un échange de mots cruels et de réparties empoisonnées comme les flèches des Indiens. Désespéré de voir le régent, après une brouille assez longue avec madame de Sabran, se montrer à l'opéra, dans une loge, en compagnie de l'ex-maîtresse, que l'on pouvait croire redevenue maîtresse en titre, elle dit à haute voix. « Si j'avais eu le malheur de perdre les bonnes grâces de son Altesse royale, je ne paraîtrais plus dans le monde. » Madame de Sabran, à qui ces paroles furent rapportées, s'écria « Ah ! Elle pourrait reparaître partout, bien sûr de n'être remarquée nulle part. » Ce que madame d'Averne craignait de perdre plus que tout au monde, c'était les 3 000 livres par mois que le régent lui accordait pour sa table, sans compter les menus profits. Égoïste au-delà de toute expression, ce défaut dominant éclatait souvent avec une incomparable naïveté dans ses moindres paroles. Un jour, devant elle, Chirac, l'homme aux lugubres prophéties, disait au duc d'Orléans « Monseigneur, vous mourrez d'apoplexie. » « Eh mon Dieu, répliqua le prince, je ne connais pas de mort plus douce, et je te défierais volontiers de m'en trouver une. » « Oui, mais vous mourrez probablement dans les bras d'une femme. » « Eh bien, tant mieux. Du moins, on pourra dire de moi, il est mort comme il a vécu. » « Ah, Philippe, Philippe, s'écria madame d'Averne, ne me faites pas de ces frayeurs. Si vous alliez mourir dans mes bras, mon Dieu, que ne dirait-on pas sur mon compte ? J'en ferai une maladie d'au moins 3 semaines. » Le duc d'Orléans rit beaucoup. Elle était blonde comme Vénus et comme les blés, la jolie comtesse de Gacé. Elle avait un teint de lys et de rose, des yeux d'un bleu de bleuet, un corps de jeune nymphe. On la citait comme l'une des plus charmantes et des plus gracieuses femmes de la cour. De la duchesse douairière de Gesvres, maîtresse émérite de Fargy, nous n'avons pas grand-chose à dire. Cette bacchante surannée, la duchesse avait tout près de 40 ans, suppléait, disait-on, à l'absence de quelques-uns des charmes que les années avaient emportés au passage, par une expérience amoureuse digne des plus célèbres courtisanes de l'Antiquité et des temps modernes. Nous en avons fini avec les grandes dames réunies ce soir-là dans le petit salon du Palais-Royal, et il ne nous reste plus à parler que de 2 filles de l'opéra, la souris et Émilie, venues là pour souper en noble compagnie. Sans doute mes lecteurs s'étonneront de cette étrange réunion de drôlesses blasonnées et portant des noms sonores, avec de simples impures sorties de la lie du peuple et dont la beauté et l'impudeur formaient les titres et les armoiries. Rien ne semblait plus simple à Philippe d'Orléans que cet amalgame bizarre. « Toutes les femmes, pensait-il, sont égales devant l'orgie. » Et d'ailleurs, n'était-il pas philosophe ? Fidèle au principe d'éclectisme qui lui avait été enseigné par son digne précepteur, le régent faisait grand cas des danseuses de l'opéra qui le lui rendaient bien. Rarement, cependant, il allait dans les coulisses, parce que toutes ses filles se laissaient aller avec lui à des familiarités qui n'étaient tolérables que dans le tête-à-tête, et que quelques-unes s'oubliaient jusqu'à l'appeler Philippe. Un courtisan, qui voulait leur donner des conseils de savoir-vivre et de cérémonial, reçut de l'une d'elles cette réponse. « Le moyen d'appeler Monseigneur ou Votre Altesse un homme que l'on a vu à ses pieds. » La souris ne portait ce nom, ou plutôt ce sobriquet, qu'à cause de sa gentillesse et de sa légèreté. Elle avait, du reste, horreur des rats et des souris, au point de faire une fausse couche, parce qu'au moment où elle rentrait dans les coulisses, une de ses homonymes était venue se jeter dans ses jambes. Il était impossible d'imaginer quelque chose de plus joli, de plus mignon, de plus gracieux, mais aussi de plus capricieux, de plus étourdi, de plus extravagant que cette folle et séduisante créature. Elle ressemblait à un lutin, à un sylphe, à un farfadet, à la reine des fées et des génies. On s'étonnait de ne pas voir pousser à ses épaules blanches de petites ailes de papillon. La souris avait 17 ans au plus. Le sourire candide et le regard ingénu d'une jeune vierge et la rouerie pratique d'une vieille courtisane. En ce temps-là, les danseuses ne portaient point de maillot, et le parterre de l'opéra adorait la souris à cause de la manière tout à fait insouciante et libérale dont elle faisait ballonner sa courte jupe dans ses pirouettes. Elle avait de la grâce jusqu'au bout des doigts, et jamais personne n'avait pu songer à rivaliser l'incroyable perfection avec laquelle elle dansait le menuet. Le régent éprouva pour elle un violent caprice. Il avait été séduit par ses petites mains et ses petits pieds. Il enleva la danseuse à 2 ou 3 enrichis de la banque de l'eau, lui prodigua l'or et acheta pour elle la maison que Thévenard, de l'Opéra, avait fait bâtir à Auteuil et dont on citait la magnificence. Lorsque la souris cessa d'être la maîtresse de Philippe, elle resta l'une des fidèles habituées des soupers du palais royal. À l'époque même de sa plus grande faveur, la souris avait eu dans les coulisses de son propre théâtre une rivale. Cette rivale était Émilie, la statue grecque de l'opéra, ainsi que la nommait Richelieu, qui n'avait jamais pu venir à bout de faire jaillir la moindre flamme de ce bloc splendide de marbre de Paros. Le régent se trouva bien à ce qu'il paraît de cette froideur marmoréenne qui n'avait d'égal que la docilité d'Émilie. Il aimait cette fille superbe qui parlait peu, écoutait tout ce qu'on voulait, tendait toujours la main et n'avait jamais une volonté à elle. Émilie était grande et toutes les descriptions du monde seraient impuissantes pour faire comprendre sa prodigieuse et irréprochable beauté. Que l'on se figure, si l'on peut, la réalisation vivante de cette statue de Vénus pour laquelle le sculpteur grec avait emprunté une perfection à chacune des plus admirables filles de Sparte et d'Athènes. Dans tout le corps d'Émilie, il eût été impossible de trouver un défaut ou seulement une imperfection. Cette singulière créature ne se doutait pas de ce que c'était que l'amour et ne soupçonnait même pas l'existence de la jalousie. Pendant les quelques semaines que dura son règne dans la chambre à coucher du régent, ce dernier lui aurait fait des infidélités avec l'univers tout entier sans qu'elle songeât à s'en émouvoir. « À votre aise, monseigneur, lui aurait-elle dit, ne vous gênez pas, j'attendrai. » Elle avait allumé un grand nombre de passions, dont quelques-unes furent illustres, et ne les avait jamais partagées. Hâtons-nous d'ajouter que jamais non plus elle ne leur avait rien refusé. Le duc de Richelieu l'avait aimé, le duc de Melun l'avait aimé. Fimarcon l'aimait avec fureur. On peut dire sans crainte de se tromper que si une fois dans sa vie, son cœur de marbre battit légèrement sous sa gorge de marbre, ce fut pour le dernier gentilhomme que nous venons de citer. À la vérité, il la battait, ce qui explique bien des choses. Émilie ne demandait jamais rien, mais elle recevait tout. Elle était, malgré son habituelle nonchalance, prodigue, gaspilleuse et parfois généreuse. C'était elle qui donnait à Fimarcon de quoi soutenir le train de prince qu'il menait, alors même qu'il était page. Émilie avait du bon sens et un esprit très adroit et très juste, avec plus de lecture et d'instruction qu'on en a l'habitude à l'opéra. Elle citait volontiers et toujours à propos les histoires de Rome et de France. En dehors de la fantaisie sensuelle que lui inspirait Émilie, le régent professait une véritable estime pour cette danseuse originale qui lui donnait des conseils comme un général d'armée. La bonne fille citait Alcibiade et Henri IV, le roi David et Caton d'Utique, Sésostris et Léonidas, avec toute la gravité d'un conseiller aulique. Un matin, le cardinal Dubois fit demander un instant d'entretien au régent, qui le lui accorda séance tenante, quoiqu'Émilie fût dans sa chambre et encore couchée, ou plutôt étendue sur son lit, dans un costume qu'elle affectionnait, parce que comme celui des nymphes et des déesses de l'Antiquité, il mettait dans toute sa valeur sa beauté mythologique. Mais Dubois n'était pas homme assez farouché pour si peu de choses. Au contraire, en reconnaissant Émilie et surtout en voyant pour la première fois ce marbre animé, Dubois fut ébloui, au point de cacher son visage avec ses deux mains pour éviter des distractions et peut-être des tentations. « Hé, regarde tant que tu voudras, Dubois, » lui dit le régent. « Mais puisque tu es venu pour me parler d'affaires, parlons d'affaires. » Pendant ce temps, Émilie ne bougeait pas et souriait à peine. « Pardon, monseigneur, » balbutia Dubois, « mais je suis de trop ici dans ce moment, et je me retire. »« Allons donc, » répliqua Philippe d'Orléans. « Tu meurs d'envie de rester. D'ailleurs, au besoin, Émilie te retiendrait par ton petit collet. » « Eh !» dit alors la danseuse avec ce magnifique sang-froid qui ne lui faisait jamais défaut. « Je ne suis pas Madame Putiphar pour arracher le manteau d'un nouveau Joseph. »« Mais, monseigneur, » continua Dubois, « j'étais venu pour une affaire importante. »« Qui t'empêche de me la communiquer ? » Mais je ne puis, en présence. En présence d'Émilie? Pourquoi donc? Émilie est discrète. Elle a de l'esprit, elle a du jugement. Elle nous donnera peut-être un bon conseil. Philippe, dit-elle, me crois donc autant de discrétion qu'en montra le jeune Papirius au Sénat de Rome? Malpeste, s'écria le régent en riant. Aurais-tu jamais cru, Dubois, qu'une érudition de bénédictin se cacherait dans un corps comme celui-là? Non, monseigneur. Et surtout, ce n'est pas de l'érudition que j'aurais jamais songé à lui demander. Enfin, voyons, qu'est-ce qui t'amène? Monseigneur, je venais... Tu venais? Vous proposez... Dubois, mon ami, s'écria le régent. Si tu n'étais pas ce que tu es, je te ferais périr sous le bâton. Parleras-tu? Eh bien, je venais vous proposer une nouvelle maîtresse. Ah ah, ceci doit en effet se prendre en considération. Vaut-elle Émilie, cette maîtresse? Je n'en sais rien, monseigneur. Comment? Tu ne la connais pas? Non, monseigneur. Tu es fou, Dubois. Non, monseigneur, car la personne dont il s'agit m'a été recommandée par madame de Tencin, qui s'y connaît. Ah, diable! Et que t'en a-t-elle dit, madame de Tencin? Elle m'a dit que c'était un bel esprit. Tant pis. Pourquoi, monseigneur? Parce que les beaux esprits ne logent guère d'habitude dans de beaux corps. Il paraît que votre Altesse royale changera d'avis quand elle aura vu madame du Deffant. Ah, la protégée de madame de Tencin s'appelle madame du Deffant. Oui, monseigneur. Que pense Émilie de tout ceci? Je pense, monseigneur, répondit la philosophique danseuse, qu'il ne vous en coûtera pas beaucoup d'y aller voir. Il nous semble que ces derniers mots peignent merveilleusement l'incomparable insouciance de la splendide courtisane. Chapitre 5. Le souper. Et maintenant que nous connaissons à merveille les convives du souper du Palais-Royal, transportons-nous avec Philippe d'Orléans et ses invités dans une salle à manger que le pinceau lascif de Coypel avait illustré de toutes sortes d'érigones, de bacchantes et de ménades. Nos lecteurs comprennent à merveille que nous ne pouvons avoir ni le désir ni la volonté de sténographier pour eux les dialogues brillants, les lestes attaques, les ripostes étourdissantes d'un souper dont presque tous les convives possédaient au plus haut degré cet esprit facile, miroitant, incisif et licencieux du XVIIIe siècle. Cette conversation pleine d'allusions et de réticences ne deviendrait intelligible que si nous voulions en expliquer chaque phrase et nous en faire en quelque sorte le commentateur. Or, ce serait là un travail très long et très inutile qui d'ailleurs ne relierait qu'à grand-peine à l'ensemble de notre œuvre. Nous allons donc nous borner à reproduire ici la partie de la conversation qui se rapporte au plan conçu par Raoul de la Tremblay, communiqué au marquis de Tianges, approuvé par ce dernier et que nos lecteurs ne tarderont pas à connaître par ses résultats. Il était 2 heures du matin. Le souper devenait d'une gaieté folle grâce à l'esprit des convives et grâce au vin de champagne rosé que le duc d'Orléans faisait verser sans relâche dans tous les verres, surtout dans ceux des belles pêcheresses assises à ses côtés. Toutes les 2 ou 3 minutes, son Altesse royale portait des santés auxquelles il fallait bien faire raison, et l'usage, ayant force de loi au souper du palais royal, exigeait que le verre plein qu'on approchait de ses lèvres ne fût replacé sur la table que complètement et consciencieusement vide. L'ivresse féminine avait pour Philippe d'Orléans les attraits les plus puissants. Ses filles, élevées à son école et selon ses principes, auraient facilement tenu tête à un garde française ou à un sang suisse. « Buvez, mesdames, disait le duc, buvez, buvez sans cesse. C'est pour vous que Noé inventa la vigne. C'est pour vous que Bacchus enseigna l'art de cuver le vin. C'est pour vous que fleurissent sur les coteaux d'ail et de sillerie les grappes de ce raisin doré d'où couleront à flot ces vins mousseux, coquets et charmants, dont vous avez le montant et l'esprit. Buvez encore, buvez toujours. Si vous saviez comme chaque libation nouvelle ajoute une grâce à vos charmes, une étincelle au diamant de votre beauté. Votre teint se colore d'un incarnat plus vif que celui des roses naissantes. Vos yeux s'alanguissent et la volupté rayonne dans chacun de vos regards. Le vin, c'est la beauté. Le vin, c'est la grâce. Le vin, c'est l'amour. Buvez !»
Bravo, murmura le duc de Richelieu tout bas, avec une nuance d'imperceptible ironie. Puis tout haut, il ajouta sur un air de Noël fort à la mode à cette époque, « La nuit, quand les femmes sont grises, tous les maris sont… »
« Quoi ?» demanda Philippe d'Orléans en riant.
« Tous les maris sont gris, » acheva Richelieu.
« Comme les chats, alors, » dit le régent.
« Ces pauvres maris !»«
Monseigneur, » reprit Richelieu, « la comparaison est juste. »
Tu serais bien en peine de le prouver.
En aucune façon.
Prouve-le donc.
Les maris peuvent et doivent se comparer aux chats, puisque les femmes et les chattes sont les animaux les plus gracieux, les plus trompeurs et les moins susceptibles d'attachement de la création tout entière.
Un éclat de rire universel accueillit cette définition peu galante de la femme et de la chatte.
Il a ma foi raison, s'écria le régent. Et me voici prêt de convenir que quand les femmes sont grises, tous les maris le sont, gris.
Et le diable en rit, ajouta Richelieu.
Le marquis de Tianges guettait depuis longtemps une occasion de faire dévier l'entretien de la voie dans laquelle il avait marché jusque-là. Cette occasion se présentait enfin, il la saisit avec empressement.
À propos du diable, dit-il, votre Altesse royale me permettrait-elle de lui adresser une question?
« Questionnez, marquis, questionnez, je vous en donne le droit. »
« En me réservant, bien entendu, celui de ne pas répondre, si votre question me semble indiscrète. »«
J'espère qu'elle ne le sera pas, monseigneur. »«
Parlez donc, je vous écoute, » ajouta le régent.
« J'avais entendu dire que parmi les convives du souper de cette nuit devait se trouver cette jeune et belle adepte par qui le diable eut l'insigne honneur d'être présenté à votre Altesse royale il y a quelque temps. »
« Ah ah !» fit le duc. « Antonia Verdi !»«
C'est cela même, monseigneur, » lui répondit le marquis.
En entendant prononcer le nom de cette nouvelle rivale, à laquelle, à tort ou à raison, on accordait une certaine influence sur l'esprit du régent, et dont on craignait de voir la position se dessiner de plus en plus, Madame de Parabère ne put empêcher une moue significative de se dessiner sur ses lèvres charmantes. Quant à Madame de Sabran, elle lança un foudroyant regard au maladroit questionneur qui venait si intempestivement rappeler au régent le nom et la personne d'Antonia Verdi. Le marquis de Tianges ne sembla s'apercevoir en aucune façon des sourdes tempêtes qu'il faisait gronder contre lui, et il reprit.
« Pourquoi donc, monseigneur, cette séduisante magicienne n'est-elle pas en ce moment parmi nous ?»«
Je l'ignore, mon cher marquis, » répondit Philippe.
« Votre Altesse l'ignore ?» répéta Monsieur de Tianges avec un étonnement réel.
« Complètement.
Mais, d'habitude, votre Altesse sait tout ce qu'elle veut savoir.
Comment donc se fait-il ?
Que je ne sache rien dans cette circonstance ? Je vais vous le dire. Dans la journée, Antonia Verdi m'a fait prier de vouloir bien lui communiquer la liste des convives masculins du souper de ce soir.
Et qu'a fait votre Altesse ?
J'ai envoyé à Antonia la liste qu'elle demandait.
Et alors ?
Une heure après, Antonia me faisait répondre que ses esprits familiers venaient de lui révéler que la rencontre de l'un de mes convives lui serait fatale et qu'elle me suppliait de la dispenser de paraître au Palais-Royal cette nuit.
Un murmure de surprise et de curiosité courut autour de la table.
« Et ? » demanda Monsieur de Tianges au bout d'un instant. « Antonia Verdi a-t-elle révélé à votre Altesse le nom de ce néfaste convive dont ses esprits familiers lui défendent l'approche ?
Elle ne l'a pas fait, et elle prétend ne pas en savoir à ce sujet plus que moi-même. Elle est avertie du péril, mais elle ignore de qui ce péril doit venir.
« Voilà qui est bizarre, » murmura le marquis de Tianges comme se parlant à lui-même.
« Mais, j'y songe, » dit tout à coup le régent, « ce mystère n'en est pas un.
Votre Altesse devine ?
Le mieux du monde ? Et vous allez voir que je n'ai pas besoin de faire de grands efforts d'imagination pour cela. Nous sommes ici 7 hommes.
Eh bien, monseigneur,
eh bien, 6 d'entre nous se sont trouvés déjà, et presque tous, à plus d'une reprise en présence d'Antonia Verdi.
Un seul fait donc exception. Du moins, je le crois.
Puis se tournant vers Raoul, le régent ajouta « Connaissez-vous Antonia Verdi, mon cher chevalier ?»«
Non, monseigneur. » »«
Vous ne l'avez jamais vue ?»«
Jamais. » »«
Plus de doute. C'est vous que les esprits désignent comme devant lui porter malheur. »
« Je suis désespéré d'être ainsi et à mon insu l'instrument d'une fatale influence, puisque votre Altesse royale daigne porter quelque intérêt à la personne dont il est question. Mais, et votre Altesse royale me rendra cette justice, je n'en doute pas, je suis absolument étranger, au moins par ma volonté, à cet étrange arrêt du destin, et je viens d'entendre prononcer le nom d'Antonia Verdi pour la première fois.
Je vous crois, chevalier. » Bien souvent, des volontés plus puissantes que la nôtre disposent absolument de nous et suppriment notre libre arbitre.
D'ailleurs, les événements à venir peuvent fort bien ne point avoir la gravité qu'Antonia paraît disposée à leur prêter. Peut-être ces esprits familiers lui ordonnent-ils d'éviter votre présence, tout simplement parce que vous êtes un adepte comme elle, un rival, parce que vous marchez comme elle d'un pas ferme dans les sentiers de la plus difficile et de la plus sublime de toutes les sciences.
Je ne puis accepter cette épithète de rival sans savoir quelles ont été, en présence de votre Altesse royale, les preuves et les résultats de cette jeune et belle adepte, puisqu'il paraît qu'elle est jeune et belle.
Ces preuves et ces résultats, chevalier, ont été complets, surprenants, inouïs, répondit le régent, et de nature à ne nous laisser aucun doute sur le pouvoir d'évocation d'Antonia Verdi et sur l'irrésistible empire auquel les esprits infernaux obéissent sans même tenter une résistance inutile. Raoul s'inclina respectueusement.
« On n'interroge pas une Altesse royale, » dit-il ensuite.
« Sans cela... » Il s'interrompit.
« Sans cela, vous me demanderiez des détails, n'est-ce pas ?» acheva Philippe.
« Oui, monseigneur. »«
Eh bien, je vais vous en donner, et je crois que lorsque vous m'aurez entendu, vous reconnaîtrez sans peine qu'Antonia Verdi est pour vous, non pas seulement un rival, mais un maître.
Je le reconnais déjà, puisque tel est l'avis de votre Altesse royale, qui ne peut se tromper, dit Raoul.
Non, non, pour tout ce qui touche à la science, un prince du sang, fût-il comme moi régent de France, fût-il le roi lui-même, n'est pas plus infaillible qu'un de ses sujets. Écoutez-moi donc, et vous trancherez vous-même la question.
Raoul s'inclina de nouveau. Chapitre 6 La voisin. Philippe d'Orléans racontait bien, il le savait, et il aimait à raconter. Il entama donc, sans plus de retard, un récit que nous ne reproduirons pas après lui, car nos lecteurs le connaissent déjà. Ils l'ont entendu faire par le marquis de Tiange à Raoul dans l'un des chapitres de la première partie de notre roman. Nous les renvoyons donc au chapitre intitulé « Le diable », qui, s'ils veulent bien prendre la peine de le relire, mettra sous leurs yeux les moindres circonstances de l'infernale évocation accomplie par Antonia Verdi au palais royal avec l'assistance d'un crapaud magique préalablement muni de tous les sacrements de l'Église. Le régent, quand il eut achevé, se tourna vers Raoul et lui demanda « Eh bien, chevalier, que pensez-vous de ceci ?»
« Votre Altesse royale me permet-elle d'exprimer ma pensée nettement, franchement, sans embâge et sans réticence ?»«
Non seulement je vous le permets, mais je vous l'ordonne. » »«
J'obéirai donc, monseigneur, et je répondrai qu'Antonia Verdi, agissant évidemment selon la pratique usitée par les Coftes, et qui se trouve relatée d'une façon claire et précise dans le livre Amoréen, a fait la chose du monde la moins surprenante en évoquant sans trop de difficulté un démon de quatrième ou cinquième classe.
« Ah, cela vous paraît simple, chevalier ?»«
Oui, monseigneur. »«
Et vous en feriez autant ?»«
Quand votre Altesse royale daignera m'en donner l'ordre, j'en ferai beaucoup plus. »«
En vérité ?»«
Oui, monseigneur. »«
Et ce plus, pourquoi ne l'avez-vous pas fait encore ?»«
Parce que votre Altesse royale ne m'a pas jusqu'à présent fait l'honneur de me le demander.
Mais vous me savez fort curieux de ces sortes de choses, et vous auriez pu, ce me semble, mettre à ma disposition les trésors de cette science sans rivale dont vous vous prétendez le dépositaire.
Que votre Altesse royale daigne me pardonner,
mais les évocations dont je parle portent en elles quelque chose de si effrayant, de si terrible, si dangereux même, que jamais je n'aurais pris sur moi d'en parler à votre Altesse sans un ordre précis de sa part. Si incrédules que fussent la plupart des hommes qui se trouvaient là, il fut facile de distinguer sur leur visage un petit frémissement d'inquiétude. Quant aux femmes, avons-nous besoin de le dire, elles pâlirent toutes sous leur rouge.
« Ah ça, mais, demanda le régent, quelles sont donc ces évocations terribles et ces apparitions plus effrayantes, plus dangereuses que celles du démon lui-même ?»«
Monseigneur, répondit Raoul, je puis arracher les morts aux tombes illustres ou inconnues qui depuis des siècles gardent leurs ossements blanchis. Je puis évoquer les empereurs romains, les courtisanes de la Grèce, les capitaines d'Athènes et de Lacédémone. À ma voix, Sésostris, le grand Salomon, Judas Iscariote ou Jules César obéiront. À ma voix, les rois de France soulèveront les dalles consacrées de Saint-Denis. Et quel que soit le personnage que vous m'aurez désigné, fût-il mort depuis 50 ans seulement, fût-il mort depuis 6000 ans, celui-là, courtisane ou sage de la Grèce, empereur romain ou roi de France, celui-là revêtira pour une heure sa chair et son visage d'autrefois et viendra, si vous le voulez, s'asseoir à votre table. »
Pendant quelques secondes, le régent resta pensif et comme absorbé dans une profonde rêverie.
« C'est étrange et terrible, en effet, » murmura-t-il. Puis après un nouveau silence, il ajouta « Et tout ce que vous venez de dire, chevalier, vous pouvez le faire. »
« Oui, monseigneur, car tout ce que je viens de dire, je l'ai déjà fait. »
« Pour qui ?»«
Pour moi seul, monseigneur. »
« Dans quel but ?»«
J'avais à interroger une tombe fermée depuis longtemps déjà. J'avais à demander à un mort une révélation. »
« Et la tombe a répondu ?»«
Oui, monseigneur. »
« Et le mort est venu ?»«
Oui, monseigneur. »
« Et la révélation s'est faite ?»«
Oui, monseigneur. »
« Et par quel moyen avez-vous obtenu tout cela ?»«
Ceci, monseigneur, est un secret que je ne puis pas révéler, même à vous. Je n'en ai pas le droit. »
« Du moins, pouvez-vous m'apprendre quels sont ces périls dont vous me parliez tout à l'heure et qui menacent les témoins de vos évocations ?»«
Parfaitement, monseigneur. Ces témoins, quels qu'ils soient, si pendant toute la durée de l'évocation et de l'apparition, ils tentent de sortir du cercle magique dans lequel je les aurai d'abord enfermés, mourront de mort subite à l'instant même et tomberont comme foudroyés.
Le danger étant prévu, devient nul.
Pas toujours, monseigneur.
Comment l'entendez-vous?
La terreur s'empare quelquefois des âmes les mieux trempées, jusqu'au point de leur faire tout oublier. L'épouvante domine la raison. On ne se souvient plus. On veut fuir, et je le répète, hors du cercle magique, c'est la mort.
Existe-t-il donc des exemples de ces morts foudroyantes dans de semblables circonstances?
Il en existe, monseigneur.
Vous en connaissez?
Oui, monseigneur.
Pouvez-vous nous raconter un fait de ce genre? J'en entendrai le récit avec intérêt.
Rien n'est plus facile, mais je dois prévenir votre Altesse royale que je me verrai dans la nécessité de citer de très grands noms et de les citer d'une manière compromettante pour l'honneur des familles.
Qu'importe. « Je vous donne carte blanche. »«
Je commence donc, monseigneur. »
C'était sous le règne du glorieux monarque qui, de son vivant, s'appelait Louis XIV et que la postérité appelle déjà Louis le Grand. La voisine n'avait pas encore été jugée et mise à mort, et elle jouissait de tout le sinistre éclat de sa double renommée de magicienne et d'empoisonneuse. Je ne sais si ces poisons étaient au niveau de la réputation qu'on leur faisait, mais il m'est impossible de douter que par un acte en bonne et due forme, passé entre elle et Messire Satan en personne, acte dont j'ai eu l'original entre les mains, elle avait abandonné la toute propriété de son âme immortelle à l'esprit des ténèbres en échange d'un pouvoir cabalistique de première classe, pouvoir qui devait durer autant que sa vie. Or, monseigneur, l'abbé d'Auvergne, cardinal à 27 ans, grand aumônier de France presque aussitôt après, était à peine revêtu de cette charge éminente que le plus étrange dessein traversa son esprit et s'y arrêta. Un beau matin, la voisine fut prévenue par un nègre qui faisait partie de son domestique qu'un homme du peuple insistait pour lui parler sur-le-champ, et cela d'un ton et avec un air d'autorité qui faisait croire à quelque déguisement. La voisine donna l'ordre d'introduire le visiteur, et elle se trouva en présence d'un jeune homme de belle taille et de tournure élégante, malgré le costume qu'il portait, et qui était celui des Savoyards exerçant à Paris la profession de gagne-denier. Ce jeune homme avait enduit son visage et ses mains d'une couche de bistre qui devait le rendre méconnaissable. La voisine, que sa grande habitude ne pouvait tromper, comprit à l'instant même qu'elle avait devant elle non point un homme du peuple, mais un gentilhomme déguisé. Elle feignit cependant d'être dupe de l'apparence, et elle dit à son visiteur « Que voulez-vous de moi, brave homme ?»« On affirme, » répondit l'inconnu en essayant d'imiter l'accent de la Savoie, ce à quoi il réussissait fort mal, « on affirme que vous jouissez d'un pouvoir surnaturel. »«
Que vous importe ?»«
Il m'importe beaucoup. »
« Prétendez-vous mettre à contribution ce pouvoir dont vous parlez ?»«
Telle est en effet mon intention. »«
Eh bien, ce pouvoir existe, mais ce n'est pas pour vous qu'il se manifestera. »«
Pourquoi ?»«
Parce que vous semblez pauvre, et que je ne vends qu'aux riches ma science et mes secrets. »«
Il est vrai que je suis pauvre, mais cependant je peux vous payer, » répondit l'inconnu en tirant de sa poche une bourse qui paraissait bien lourde en la montrant à la voisine.
« C'est bien, » fit cette dernière. « Si vous avez de l'or à me donner, je ne vous demanderai pas d'où vient cet or. »«
Maintenant parlez, que voulez-vous ? » ?»«
Je veux d'abord une preuve que votre science est réelle. » »«
Et cette preuve ? » ?»«
Dites-moi qui je suis, et je la trouverai suffisante. » »«
Votre main ? » ?»«
La voici. »
La magicienne prit la main que lui tendait l'inconnu, et elle en examina longuement les moindres lignes. Pendant cet examen, elle évoquait mentalement l'un des démons familiers mis à ses ordres par Belzébuth. Le démon vint. Elle l'interrogea. Il répondit. La voisine laissa retomber la main qu'elle tenait dans les siennes.
« Eh bien ? » demanda le visiteur.
« Eh bien ? » répondit la voisine. « Monseigneur Emmanuel Théodose de la Tour, prince de Bouillon, cardinal d'Auvergne, grand aumônier de France, commandez à votre servante. » Et votre servante obéira.